VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 28 août 2017. En direct de Washington, Abdourahmane Dia et Anne Alberson. Et on démarre par les titres.
Un sommet Europe-Afrique s'ouvre ce lundi à Paris pour de nouveau évoquer la crise migratoire.
Reprise du procès de Laurent Gbagbo à La Haye après des semaines de suspension.
Ici aux États-Unis, Houston, la grande métropole de l'État du Texas, sous les eaux après le passage de l'ouragan Harvey. Le président Trump doit s'y rendre demain.
Et dans la partie magazine, Bangui, la capitale centrafricaine, tente de se relever après les pluies diluviennes de ces derniers jours.
Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports.
Mais tout d'abord, le journal.
Reprise ce lundi du procès de Laurent Gbagbo à La Haye devant la Cour pénale internationale, l'ancien président ivoirien est poursuivi pour crimes contre l'humanité dans le cadre des violences post-électorales de 2010-2011. Ses avocats plaident pour sa mise en liberté provisoire. En Côte d'Ivoire, des milliers de personnes suivent de près ce procès qui a été interrompu le 19 juillet dans le cadre des vacances judiciaires d'été à la CPI.
Drame au Burkina Faso. 8 personnes ont été tuées dans l'éboulement d'une mine d'or artisanale survenue ce week-end dans le centre du pays. Les victimes ont été inhumées sur place après le constat d'usage et les blessés conduits au centre médical de Gogo, selon les autorités locales. Les fortes pluies tombées ces derniers jours dans la région pourraient avoir causé l'éboulement. Malgré l'interdiction de l'orpaillage en saison hivernale, les éboulements meurtriers sont fréquents en cette période et les autorités peinent à contrôler l'exploitation illégale de l'or. Selon les chiffres officiels, plus d'un million de personnes exercent cette activité au Burkina Faso.
Au Gabon, déjà un départ, une semaine seulement après la formation d'un nouveau gouvernement. Irène Patricia Boussamba, ministre déléguée auprès du ministre d'État, ministre du Budget et des Comptes publics, a été contrainte de quitter l'équipe du Premier ministre. Irène Patricia Boussamba était proche de l'ancien ministre du Budget, Magloire Gambia, actuellement en prison.
Au Soudan du Sud, un journaliste américain a été tué samedi en couvrant des combats entre troupes gouvernementales et rebelles. Les détails avec Eric Manirakiza.
Un communiqué publié hier par la rébellion Espela.io a donné l'identité de la victime sans plus de détails. Christopher Allen était un journaliste et photographe indépendant. Il travaillait pour plusieurs médias internationaux dont Al Jazeera, The Telegraph, Vice News ou The Independent. Il était arrivé récemment au Soudan du Sud après avoir longuement couvert le conflit en Ukraine. Il a été tué lors de violents combats qui ont éclaté dans la ville d'Okaya, à l'extrême sud du pays, à la frontière avec l'Ouganda et la RDC. L'ambassade américaine à Djouba a également confirmé la mort de Christopher Allen. Cet ancien citoyen américain a déclaré hier Jeremiah Knight, le porte-parole de l'ambassade, ajoutant que ces combats ont fait 18 autres victimes.
Les dirigeants de sept pays africains et européens se retrouvent aujourd'hui à Paris pour un mini-sommet sur la crise migratoire. Objectif, faire le point et harmoniser les positions sur ce dossier souvent source de tensions. Le point avec Aloïs Biguirimana.
Le président français Emmanuel Macron a convié ses homologues tchadiens et nigériens, Idriss Déby Itno et Mohamedou Issoufou, ainsi que le chef du gouvernement d'entente nationale libyen Fayez al-Sarraj. Côté européen, les dirigeants allemands, italiens et espagnols, ainsi que la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini seront présents. Selon la présidence française, cette rencontre vise à réaffirmer le soutien de l'Europe au Tchad, au Niger et à la Libye pour le contrôle et la gestion maîtrisée des flux migratoires. Les Européens ont lancé depuis plusieurs années des programmes d'aide dans les pays africains et conclu des accords parfois controversés, comme avec la Turquie, pour couper les routes de l'immigration illégale. En 2015, lors du sommet sur la migration à La Valette, l'Union européenne avait déjà mis sur la table 1,8 milliard d'euros. Les États africains, eux, réclament davantage de soutien. Le Niger estime avoir réduit de 80% le flux migratoire à Agadez, dans le nord du pays, plaque tournante du trafic d'êtres humains.
et puis des militants d'extrême droite européens qui voulaient bloquer les migrants au large de la Libye ont mis pied à terre dimanche après 2 mois de tribulations et moins d'une semaine de patrouille. Les 6 militants européens de génération identitaire réunis au sein du collectif Defend Europe étaient bloqués depuis le 17 août au large de Malte, dont le gouvernement refusait l'accès à leur navire. Le Sea Star a été loué grâce à un appel aux dons sur Internet qui a permis de collecter plus de 233 000 dollars. Ils avaient aussi été bloqués au large de la Tunisie pendant 5 jours.
Au Sénégal, depuis ce week-end, il est formellement interdit de fumer dans les lieux publics. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale met ainsi en vigueur une loi votée en 2014, dont le décret d'application date de 2016. Pour mesurer l'effet de cette mesure, Eric Manirakiza a joint à Dakar un militant anti-tabac, le docteur Abdulaziz Kassé.
Une interdiction de fumer dans un pays n'est pas un processus qu'on peut constater en un jour. Je pense que c'est l'avenir et les jours à venir, les semaines à venir, qui nous permettront de constater l'effectivité de la mesure dans les différents espaces publics. Mais on ne peut pas, du moins la société civile ne peut pas, en un jour, constater l'effectivité de la mesure d'interdiction de fumer. Et de toute façon, nous retenons que le ministère de la Santé n'a pas encore pris la résolution d'interdire de fumer dans les espaces récréatifs. Et c'est ça le gros problème, les bars et les restaurants.
Et pourquoi, selon vous, le gouvernement ne veut pas imposer la même restriction à ces espaces?
L'idéal serait été d'augmenter les recettes fiscales. En augmentant les recettes fiscales, ces recettes peuvent être allouées à la couverture maladie universelle, à l'école, à l'assainissement et à bien d'autres priorités nationales. C'est inadmissible, c'est incompréhensible. Est-ce donc là une complicité misérablement achetée? Je ne le sais pas.
C'était le docteur Abdulaziz Kassé de la Ligue sénégalaise contre le tabagisme.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, Houston, la 4e ville la plus grande des États-Unis, et une bonne partie du sud-est du Texas sont sous les eaux, submergées par des pluies torrentielles qui ont fait au moins 2 morts. Les trombes d'eau, ont recommencé à tomber dimanche, provoquées par la tempête Harvey et rendant vains tous les efforts pour secourir les habitants désespérés. Le point avec Jean-Roger Bion.
Des centaines d'opérations de sauvetage ont été menées dans toute la région, en hélicoptère, en bateau, par des équipes de secours qui ont bravé les torrents à pied. Les bénévoles, la police, les pompiers, les équipes médicales et 3000 membres de la garde nationale ont fait ce qu'ils pouvaient pour sauver les vies humaines. Toutes les principales autoroutes, les entrées et sorties de Houston sont devenues des rivières et les 2 aéroports de la ville ont été fermés. Jusqu'à 65 cm de pluie sont déjà tombés sur une grande partie de la région autour de Houston, selon les services de météorologie, mais cette quantité pourrait doubler d'ici vendredi. Lors d'une conférence de presse, le maire de Houston, Sylvester Turner, s'est félicité de ne pas avoir ordonné une évacuation de masse en raison des problèmes logistiques que cela aurait occasionné pour les 6 millions d'habitants de la ville. Plusieurs raffineries de pétrole de Houston ont été fermées dimanche alors que la tempête continuait. Harvey est de loin l'ouragan le plus fort à avoir frappé le continent américain en plus d'une décennie. Le président Donald Trump devrait visiter la zone sinistrée demain mardi.
Et puis le président Trump persiste et signe. Les États-Unis doivent construire un mur à la frontière mexicaine et le Mexique paiera la facture d'une manière ou d'une autre, a réaffirmé le locataire de la Maison-Blanche avant un débat difficile au Congrès sur cette priorité du président américain.
Au moins 13 personnes ont été tuées hier dans un attentat-suicide contre un convoi militaire dans le sud de l'Afghanistan. Cet attentat, revendiqué par les talibans, est le deuxième depuis que le président des États-Unis, Donald Trump, a ouvert la voie au déploiement de milliers de soldats américains supplémentaires en Afghanistan. Selon plusieurs analystes, cette annonce de Donald Trump peut être à l'origine d'une nouvelle vague de violence de la part des talibans dans le pays.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
L'actualité économique sur le continent, c'est la Minute Éco présentée par Deli Dico.
L'Organisation internationale de police criminelle Interpol a annoncé la saisie de plus de 420 tonnes de produits médicaux de contrebande en Afrique de l'Ouest. Une vaste opération couvrant 7 pays dont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Togo a permis de mettre la main sur ces produits pouvant nuire à la santé. La valeur marchande de la saisie est estimée à près de 22 millions de dollars. La Tunisie veut intégrer la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. La procédure d'adhésion devrait être finalisée en décembre lors de la prochaine rencontre de la CEDEAO dans la capitale togolaise. Le franc CFA à nouveau sur la sellette suite à l'arrestation de l'activiste et président de l'ONG Urgence panafricaniste, Kémi Séba, qui avait brûlé un billet de 5000 francs CFA lors d'un rassemblement contre la France-Afrique. Venu manifester le 19 août dernier en plein centre de Dakar, il avait choisi cet acte symbolique pour dénoncer le franc CFA qu'il qualifie de « scandale économico-politique d'ordre colonial ». Au Sénégal, l'article 411 du Code pénal prévoit que quiconque aura volontairement brûlé ou détruit des titres, des billets, effets de commerce ou de banque encourt une peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans.
À présent, la page des sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Abdulrahman.
Basketball pour démarrer, l'épilogue du 25e Afrobasket qui s'est déroulé au Mali avec le sacre du Nigeria.
Oui, les Nigérians ont détrôné les tenantes du titre après une finale âprement disputée. Résumé du match pour VOA Afrique, Amédine Si, notre envoyé spécial à Bamako.
Le Nigeria est monté sur le toit de l'Afrique en remportant la 25e édition de l'Afrobasket féminin en dominant en finale le Sénégal sur le score de 65 à 48. Pourtant, les champions d'Afrique en titre avaient bien entamé la partie en menant au score par 15 à 4 après seulement 5 minutes de jeu. Les filles de Tafagaï vont lever le pied en fin du premier quart-temps. Les Nigérianes vont en profiter pour revenir à 6 points, 18 à 12 à la fin du premier acte. Gonflées, ce retour en force, les protégées de Saint Vincent vont prendre les choses en main. Elles vont montrer un autre visage en inscrivant 21 points contre seulement 10 pour le Sénégal. Les Nigéria virent en tête à la pause avec 5 longueurs d'avance. À la reprise, les Nigérians, grâce à une défense agressive, vont prendre le large en dominant les Lions. Après seulement 5 minutes de jeu, les filles de Saint-Vincent vont creuser l'écart et elles vont terminer ce troisième acte par 13 points d'écart. Le quatrième et dernier quart-temps ne sera qu'une formalité pour les Nigérians qui vont dérouler leur jeu grâce au duo Adora Ekonor et Adonkor. Le Nigeria va s'imposer largement 65-48. Avec ce succès, les D-Tigers vont inscrire leur nom pour la troisième fois de l'histoire après les sacres de 2003 et 2005. Du côté sénégalais, on se contente des trophées de meilleure marqueuse et MVP glanés par Assou Traoré. Bamako, Amédine Si, VOA Afrique.
Les deux équipes vont donc représenter le continent pour la prochaine Coupe du Monde en Espagne. Pour le match de classement, les Maliennes 3e sont venues à bout des Mozambicaines 79-52.
Handball et la Fédération béninoise a reconduit Antoine Bonou pour 4 ans.
Et c'est à l'issue d'une assemblée générale qui s'est tenue à Boïcon que les acteurs du handball béninois lui ont renouvelé leur confiance. Antoine Bonou, seul candidat à ce poste après le retrait de Sidikou Karimou et de Eli Menvo, a été de nouveau porté à la tête de cette fédération avec 17 voix sur 18. On l'écoute juste après les élections. Antoine Bonou.
Il ne faut pas penser aux intérêts personnels. Il faut penser à l'intérêt de la discipline commune. Si vous pensez à l'intérêt de la discipline, vous ne pouvez que avancer. Et le slogan de handball, tout à l'heure, je vous ai dit dans la salle, nul ne sera de trop. Et pour réussir, il faut la discipline.
Sur le gazon cette fois, les éliminatoires de la Coupe du Monde de football, c'est le week-end prochain. Le Gabon s'apprête à défier deux fois la Côte d'Ivoire.
Oui, et ce sera lors de la troisième et quatrième journée en Afrique. Le sélectionneur du Gabon, José Antonio Camacho, a dévoilé sa liste de joueurs convoqués. Déjà absent en juin, Pierre-Emerick Aubameyang manque encore à l'appel. Ngouali est pour sa part absent sur blessure et Vounan signe en revanche son retour.
Football toujours et l'Algérie s'aligne pour l'organisation de la CAN U23 en 2019.
Finaliste de la CAN des moins de 23 ans en 2015, l'Algérie compte bien accueillir la prochaine édition. Le président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi, a annoncé que le pays des FENEC va se porter candidat auprès de la CAF pour organiser la compétition en 2019. A noter que la date limite de dépôt des dossiers est fixée au 31 août.
Merci Élisée. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous pour la deuxième partie de cette édition du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On démarre par la Centrafrique où les pluies diluviennes qui se sont abattues récemment sur la capitale Bangui et ses environs ont causé d'importants dégâts matériels. Des dizaines de maisons se sont effondrées dans la commune de Begwa. Les sinistrés dépourvus de tout appellent à l'aide. Reportage sur place de Freeman Sipila.
C'est une véritable scène de désolation ici dans la commune de Begwa. Des dizaines de maisons baignent dans l'eau et plusieurs dizaines d'autres écoulées. Ephrem Gonokara, secrétaire général du quartier Ngola 2.
Oui, c'est la coulée d'eau, malgré que le cours de Ngola est loin là-bas, presque 500 mètres, vous voyez comment le quartier est inondé. Comme ce qu'on a commencé à voir là-bas jusqu'ici, vous avez constaté vous-même, c'est tout le secteur qui est inondé.
Le secrétaire général et le chef du dit quartier nous conduit là où les dégâts sont importants. Ici, une grande maison s'est écroulée à moitié. Angèle, mère de famille, raconte.
L'eau a envahi la maison alors que les enfants dormaient déjà. Voyant que la maison s'était fissurée, nous nous sommes précipités pour sortir les enfants. Peu après, le mur s'est écroulé. Nous ne savons quoi faire, mais nous demandons aux ONG humanitaires et aux autorités du pays de nous apporter de l'aide. Nous sommes dans une situation difficile.
La maison de Guillaume s'est écroulée lors de la pluie torrentielle du samedi 26 août. Il est obligé de rester avec sa famille dans une habitation inachevée dont il n'est même pas le propriétaire.
Vraiment, pour s'entiguer.
Nous sommes dans une situation critique. L'eau nous a envahis. Ma maison s'est complètement écroulée. Je ne sais quoi faire. Regardez, la maison dans laquelle je suis avec ma femme, mes enfants, ne m'appartient pas. C'est la maison d'un militaire. C'est encore inachevé. Pas de porte, pas de fenêtre. Nous sommes obligés d'y rester parce que nous ne savons où aller. Franchement, c'est pénible. À quelques centaines de mètres de là, se trouve le petit pont du quartier qui dresse sur le marché. Ici, l'inondation est aussi importante. Des femmes, des hommes, des enfants tâtonnent pour traverser, mais avec une grande prudence. Cette femme est exaspérée.
Pour l'instant, c'est très difficile. On ne peut même pas traverser le pont. Regardez, l'eau est partout. Ma sœur est enceinte, elle était venue me rendre visite et là, je ne sais comment l'aider à traverser. Nous demandons aux autorités de nous aider dans cette situation. Le secteur est inondé à cause de l'eau de Ngongono qui a été déviée. Nous souffrons sérieusement avec cette inondation.
Selon les autorités locales, c'est la première fois que le secteur se confronte à une inondation de cette ampleur. Cette femme, pied dans l'eau, insiste de parler à notre micro. Elle appelle à l'aide.
Nous souffrons sérieusement. Nous n'avons pas de couverture ni de nourriture. Les enfants sont dans l'eau. Notre situation est déplorable. Nous demandons qu'on nous apporte des médicaments pour les enfants, des bâches ou des tôles pour nous permettre de reconstruire nos maisons. Nous sommes dans la souffrance. Je vous en prie, aidez-nous.
Jusqu'à dimanche après-midi, des maisons s'écoulaient encore. Au total, dans la commune de Begwa, ce sont plus de 2000 maisons d'habitation qui ont été détruites à la suite des pluies qui se sont abattues ces derniers jours. Les sinistrés attendent toujours de l'aide promise par les autorités et les partenaires. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Au Katanga, région du sud de la République démocratique du Congo, la commission électorale a organisé l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans deux provinces, le Haut-Katanga et le Haut-Lomami. Pour la province du Haut-Katanga, Pandé Kapopo, candidat de la majorité présidentielle, a été élu gouverneur avec 27 voix sur 28 votants, et cela sur fond de contestation. Reportage Narval Mabila.
C'est au siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga où s'est déroulé le vote du gouverneur organisé par la Commission électorale nationale indépendante. Deux candidats étaient en lice pour les comptes de la majorité présidentielle, Pande Kapopo et comme indépendant, M. Lukona Mwila, après comptage de voix.
3, 4, 5, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 1.
A été élu gouverneur du Haut-Katanga, Pande Kapopo, membre du PPRD, avec 27 voix sur 28 votants, avec comme vice-gouverneur Jean Kalenga Mampimpa de l'UNAFEC. Entre-temps, la réhabilitation par la Cour constitutionnelle du gouverneur déchu Jean-Claude Kazembe Musonda et sa non-démission fait rebondir la polémique autour de cette élection. Voici la réaction de Maître Bondo, avocat conseil de Jean-Claude Kazembe Musonda.
On ne peut pas avoir de gouverneur titulaire Kazembe Musonda Jean-Claude occupe son fauteuil de gouverneur, bien que retenu à Kinshasa de manière méphistophélique par le soi-disant vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui a vassalisé M. Nanga, président de la CNI, pour organiser cette aventure que je qualifie, passez-moi l'expression, un pétard mouillé à Lubumbashi aujourd'hui. La Cour constitutionnelle est déjà saisie, je crois que la Cour constitutionnelle tranchera et c'est pour cela que je dis que c'est un feu de paille.
Même son des cloches du côté du Rassop Katanga, où Maître Somville Mukendi à notre micro.
Mais nous ne comprenons pas comment est-ce que le ministre de l'Intérieur passe outre cet arrêt, y compris aussi la CENI. Alors nous ne savons pas dans quel pays où nous vivons. Soit nous vivons dans une république bananière, là où il n'y a ni foi ni loi, et rien n'est respecté. Et d'ailleurs, pour nous, c'est très triste. Nous de l'opposition, nous de Rassop, nous observons et nous allons en tirer les conséquences. Pour nous, ça constitue une jurisprudence. C'est-à-dire qu'à l'avenir où nous allons, tous les arrêts de l'arrêt constitutionnel seront contestés.
Chez certains, le choix à l'élection du gouverneur n'est pas une priorité face à l'insécurité que connaît la ville de Lubumbashi.
Je vous dis, élection aujourd'hui, élection de gouverneur et vice-gouverneur, tout ça pour moi, ça ne représente rien. Aussi longtemps qu'il y a de l'insécurité partout ici, ici chez nous, à Lubumbashi, les voleurs sont entrés, pillés, un paisible citoyen qui habite aux alentours du gouverneur. Le nouveau gouverneur, c'est encore comment ? Pandé, est-ce que vous pouvez imaginer ? Cette nuit, il y a eu des voleurs qui sont entrés dans une maison au quartier Caravia. Ils ont pillé, ils ont demandé de l'argent, ils ont violé même des filles là-bas. Mais aujourd'hui, vous chantez, oh non, la ville est calme, la ville est sécurisée, et il y aura élection, ceci, cela. Est-ce que nous, ça nous concerne, le problème d'élection ? Je regrette beaucoup.
Lubumbashi, Narval Mabila, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi, évidemment sur le 102.8 FM.
Au Cameroun, plus de 80 établissements scolaires privés sont interdits d'activité pour la prochaine rentrée scolaire. Le ministre des Enseignements secondaires a signé un arrêté à cet effet. Ces écoles dites clandestines opéraient dans 7 des 10 régions du Cameroun. Reportage à Yaoundé avec Emmanuel Jultap.
À Yaoundé, 11 structures sont concernées par la décision de fermeture. Le collège Père Mathieu est l'une d'elles. Les salles de classe sont en planche, pas de porte. Encore moins de fenêtres. Le site est devenu un refuge pour les jeunes délinquants. L'établissement a vécu, nous confie un ancien élève.
À partir de 2014, les choses ont commencé à dégénérer, c'est-à-dire la dégradation du site, la perte des effectifs. Comme vous pouvez le constater, les enfants ne peuvent pas fréquenter dans ces conditions-ci. Le terrain même sur lequel le site se trouve est un terrain litigé.
Implanté à proximité des résidences privées, le ministère des Enseignements secondaires a jugé le site et les locaux dangereux et non réglementaires. Le voisinage s'en réjouit du reste.
Non, mais c'est moi qu'on enlève ça là.
Pourquoi ?
50 d'habitation, ça fait beaucoup.
Mais c'est l'établissement scolaire quand même.
Mais ce n'est pas habilité. Le cadre n'est même pas approprié. Un établissement scolaire fait l'espace. Parce que les jeux sportifs sont aussi importants pour l'éducation des enfants.
L'administration du collège Père Mathieu n'a pas attendu la décision de fermeture pour plier bagages, laissant derrière elle bulletins de notes des élèves et autres documents administratifs à même le sol. Quelques parents ont pourtant investi de l'argent ici.
Quand il n'y a pas assez d'argent pour aller là où c'est bien structuré, bien construit, propre et hygiénique, on se retourne vers le moins cher qui est proche de la maison.
En 2004 et 2008, un cadre légal et réglementaire a été aménagé par les pouvoirs publics pour la création, l'ouverture des établissements scolaires, de même que l'organisation et le fonctionnement de l'enseignement secondaire au Cameroun. Dans un tel environnement, comment reconnaître les clandestins ? Jean-Pierre Mvondo Edjenge, responsable des affaires administratives et financières du secrétariat national à l'enseignement privé laïque.
Ceux-là qui n'ont même pas manifesté l'intention de créer, qui transforment les maisons d'habitation en structures scolaires et ne constituent aucun dossier. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ceux qui s'arrêtent à la procédure de création. Dès lors que le ministre vous signe l'arrêté de création, vous n'êtes pas encore habilité à fonctionner. Le ministre vous dit que vous avez manifesté l'intention d'ouvrir un collège d'enseignement général premier cycle. Mais si vous commencez à fonctionner avec le second cycle sans l'arrêté du ministre, vous êtes clandestin au niveau du second cycle.
La pose des scellés a commencé sur le terrain et les autorités administratives veulent parer au plus pressé afin d'éviter des cas d'arnaque à quelques jours de la rentrée scolaire. Yaoundé, Emmanuel Jules Ntap, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos. Et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Ils sont à des milliers de kilomètres de leurs familles respectives. Des pèlerins sont présents à la Mecque pour accomplir le cinquième pilier de l'islam. Parmi eux, des milliers d'Africains qui ont du mal à joindre leurs proches au pays. En plus de la cherté du prix de la communication vers l'extérieur, les appels aboutissent rarement. Reportage à la Mecque, Siriki Barou.
Heures et demie du matin, Dame Kadi est d'origine ivoirienne. Elle revient de la prière de l'aube. Depuis bientôt 3 semaines qu'elle a quitté sa famille à Abidjan, elle reste sans nouvelles d'elle jusqu'à ce jour. Une situation qu'elle vit difficilement.
Depuis qu'on est arrivé ici, là, on ne peut pas joindre les parents. Moi-même, depuis que je suis arrivé là, je n'ai jamais parlé à mon mari. À cause du réseau, on ne peut pas joindre les parents. On a tous les problèmes. On ne peut pas joindre les parents. On n'arrive même pas à appeler. Rien ne passe. Tu achètes les unités sans même communiquer. On t'enlève tout.
Monsieur Oumarou, lui, est un ressortissant nigérian. Contrairement à Dame Kadi, lui n'en est nullement affecté. Bien au contraire, ne pas pouvoir joindre régulièrement sa famille et ses proches lui permet de se consacrer davantage à la prière et aux actes d'adoration.
J'arrive à communiquer avec ma famille, mais seulement il y a certaines communications que j'arrête parce que je sais ce qui m'a amené et je dois prendre le temps nécessaire pour faire le hajj, pour diminuer quand même les péchés parce qu'il y a des péchés que tu connais, il y a d'autres péchés que tu ne connais pas. Donc au lieu de faire des communications à travers qui n'ont pas de sens, non seulement financièrement, ça te coûte moins cher et puis religieusement, effectivement, parce qu'en communiquant, tu vas commettre aussi d'autres péchés, donc vaut mieux réduire la communication.
Les adeptes des réseaux sociaux ont aussi constaté que les appels via les applications Messenger et WhatsApp sont bloqués par les autorités saoudiennes. Mais pour des jeunes comme Khadija Kané, jeune guinéenne, il existe des moyens de contourner ces restrictions.
Sur Imo, simplement, on peut appeler à chaque moment. Là-dessus, ce que moi j'ai trouvé pour la communication de WhatsApp avec Messenger, il te faut forcément une nouvelle application. Avec cette application, pour pouvoir appeler sur Messenger, il te faut activer cette application d'abord, parce que ça se ferme toute seule. Pour pouvoir appeler, tu actives et puis ça marche.
Notons que le point culminant du Hajj de cette année sera atteint le jeudi 31 août prochain. Jour où aura lieu le stationnement au mont Arafat, un stationnement qui représente le plus grand rassemblement de personnes sur un même site dans le monde. Siriki Barrow, depuis la Mecque, pour VOA Afrique.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-40. Je répète, 225-58-92-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
That's C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Anne Alberson, à la console, Craig Burns, présentation, Abdourahmane Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.